Le silence des petits papiers, chapitre 23. Maintenant, le sort d'Yvonne Pivier était scellé dans le columbarium du cimetière communal. Son urne, de couleur sombre, encastrée dans une petite niche, avait rejoint celle et ceux qui souhaitaient la crémation plutôt que la lente décomposition 6 pieds sous terre. Ses choix étaient guidés par des considérations diverses. Pour les uns, l'image du corps, habité par les vers et les asticots, ne convenait pas au souci de propreté qui les hanta toute leur existence. D'autres avançaient des arguments religieux ou philosophiques. Bref, chacun assumait chez soi. Jean-Christophe commençait à songer à la question. Il penchait vers la crémation, mais ne souhaitait pas terminer dans une urne posée dans un mur aux côtés d'autres urnes identiques. Il voulait que ses cendres soient répandues en différents endroits de la planète. Pour plus d'efficacité, il envisageait une technique peu banale. Il préparait un jeu d'enveloppes à envoyer dans les destinations les plus reculées. À l'intérieur se trouverait quelques poussières de lui. Un mot serait joint, demandant comme une faveur de répandre le contenu dans une rivière, un fleuve ou un lac. Il pensait à ça en dépliant la lettre de la défunte. Il voulait revoir l'arbre généalogique à l'aune des révélations de Josette. Ses déclarations éclairaient d'une autre lumière les lignes concernant certains protagonistes. À lui de savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Timothée Duraz venait en premier. Son nom apparaissait en milieu de page, la moitié supérieure étant consacrée à des observations personnelles concernant les épreuves infligées par le destin. Sa description de la personnalité du patriarche de la famille Duraz était sans indulgence. Elle n'avait pas de mots assez durs pour qualifier son comportement bestial vis-à-vis de ceux qui le côtoyèrent. Yvonne expliquait les raisons d'une sépulture séparée de son épouse et de ses enfants emportés par la méningite en 18. Cet homme, au-dessus de tout soupçon, ce travailleur acharné, était en réalité un coureur de jupons et un violeur. En ce temps-là, l'impunité était de règle. Les filles qui croisaient un margoulin dans son genre ne pouvaient que prier le bon Dieu de ne pas se trouver engrossées. Lorsque la honte s'abattait sur elles, c'était sur toute la famille. Le bannissement était prononcé, elle finissait dans l'opprobre général. Le violeur continuait selon son bon plaisir, la tête haute et le membre vigoureux. Timothée était de cela. Yvonne révélait qu'il avait violé sa fille Thérèse, probablement dès l'âge de 8 ans. Son épouse Marie se serait suicidée à cause de son comportement, la raison officielle étant le chagrin relatif à la méningite foudroyante qui emporta Madeleine, Mélanie et Ambroise. Elle affirmait que Madeleine dormait souvent avec son père. La vérité se trouva au fond du puits par une triste journée. Marie choisit de rejoindre le royaume des bienheureux. Jean-Christophe fronça souvent le sourcil. Il décida de s'octroyer une petite pause. Il voulait s'évader quelques minutes de cet univers glauque. Ce n'était pas facile, tellement il s'était imprégné de toute cette histoire. Il avait l'impression de marcher sur un terrain miné de toutes parts. Il ne pouvait pas faire machine arrière, et devant lui, l'horizon semblait trop lointain. Yvonne Pivier ne précisait pas la date du départ de Thérèse. Elle affirmait qu'elle s'était enfuie, enceinte de son géniteur. Elle croyait qu'elle avait eu une fille. Personne n'a jamais rien su de plus, selon elle. Ce qui était certain, c'est qu'elle avait fini sa vie seule en Italie. D'ailleurs, la vieille enseignante prétendait qu'elle avait partagé son malheur et la couche de Timothée avec sa belle-sœur, Catarina Pigliotti, épouse d'Auguste Duraz et mère de Joseph, l'irascible voisin. Il était plus écœuré à la relecture que la première fois. Timothée s'était comporté en patriarche despotique, comme un seigneur ayant droit de cuissage. Il comprenait mieux le mauvais caractère de son petit-fils. Ce dernier portait sur ses épaules une lourde hérédité. Jean-Christophe s'essaya à fredonner la chanson « Scandale dans la famille » que Sacha Distel, Dalida et quelques autres chantèrent. Il trouva quelques réminiscences dans les paroles. Elles auraient pu coller à la situation. Étant un piètre chanteur, il n'insista pas, se satisfaisant de ce petit intermède. La généalogie de la famille Duraz n'eut plus de secret pour lui. Malgré quelques zones d'ombre qui subsistaient çà et là, Thérèse en faisait partie, il se doutait qu'il serait très difficile d'en savoir davantage. Yvonne Pivier n'avait pas distillé ses informations au compte-gouttes. Elle avait lâché tout ce qu'elle savait. Il se posait toujours les mêmes questions. De quoi avait-elle peur lorsqu'elle lui remit la lettre? Et si son décès avait une autre cause? Il s'escrima à chasser ses idées de son esprit. Il tourna la page. Il arriva sur les lignes consacrées à Auguste Duraz et son épouse, Katharina Pigliotti. Ce fut lui qui reprit la ferme familiale à la disparition de Timothée. Taciturne, il craignait beaucoup son père. Lorsqu'il découvrit sa femme dans les bras de son père, il se comporta comme un lâche. Il n'eut aucune explication avec le fautif. Il répudia l'épouse et divorça. Joseph avait quelques mois. Il se débrouilla pour élever son fils à la ferme, pendant que Katharina s'en retournait en Italie. Madame Pivier plaignait son amie italienne, car cette dernière sollicita les services d'une faiseuse d'anges dans son pays. Elle ne voulait pas d'un bâtard Duraz. Il y en avait suffisamment de l'autre côté de la frontière. Les avorteuses agissaient après le coucher du soleil. Là-bas comme ici, les aiguilles à tricoter se ressemblaient en tout point. D'ailleurs, Yvonne émettait ses doutes concernant la paternité de Joseph. Elle se demandait si Timothée n'était pas père et grand-père à la fois. Jean-Christophe se remémora l'entretien qu'il avait eu quelque temps avant la disparition de l'épistolaire. Il avait abordé les cas de Donatella et Aurélien. Il avait perçu un peu d'embarras bien vite surmonté par la vieille dame. Maintenant, il comprenait ce qui s'était passé. Ce n'était pas très beau. Les règlements de compte imputables à la guerre eurent bon dos. La réalité était bien différente. Ils furent exécutés parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Aurélien ne sut garder pour lui ce qu'ils avaient vu. Il en parla à un ami du père Léonard. L'homme ne dit rien à personne et se chargea de la sale besogne. Josette porte ce fardeau depuis que le père Léonard lui révéla le double meurtre. Il se demanda s'il était judicieux de continuer à vouloir démêler cet écheveau. La raison l'incitait à arrêter. La folie lui disait de continuer. Alors il reprit une à une les pièces du puzzle. Son sourcil fronça plus que d'ordinaire. Son sommeil devint chaotique. Ses nuits se déroulaient dans le silence des petits papiers. Il revoyait chaque article. Il se récitait les lettres du père Léonard et d'Yvonne Pivier. Au petit matin, Hélène constatait que son compagnon était plus fatigué que la veille. Elle lui conseilla à plusieurs reprises de prendre un peu de recul, à défaut de tout laisser tomber. Il n'était pas homme à abdiquer.